Marc Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Préfet des Alpes de Haute-Provence depuis août 2022. Les chiffres de la sécurité dans le département du 04 pour l'année 2024 sont consolidés. Ils seront présentés cette semaine. Avant de revenir sur ces chiffres, en janvier dernier, près de 100 forces de l'ordre sont intervenues à Digne-les-Bains pour une opération place nette autour de trafic de stupéfiants et d'affaires d'extorsion de fonds sur des commerçants. Une opération, 6 interpellations et un climat de peur et d'insécurité qui a été décrit par la maire de Digne-les-Bains. Par rapport à ces chiffres, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un climat d'insécurité qui est justifié ou d'un sentiment d'insécurité, ce qui est différent?
Alors, si on prend l'année 2024 dans les Alpes de Haute-Provence et notamment à Digne-les-Bains, on a des bons chiffres et une bonne année en matière de lutte contre la délinquance. Si je ne devais donner que 3 chiffres, je dirais qu'on est à moins 8% sur les atteintes aux biens, notamment les cambriolages. On est à moins 9% sur les atteintes aux personnes.
Mmh. Et, une première depuis 10 ans.
Une première depuis 10 ans. Et fait particulièrement remarquable, on a moins 2% sur les violences intrafamiliales, dont on sait que depuis des années, elles étaient en augmentation forte. Mmh. C'est plutôt un soulagement de voir que sur ce type de violence, on atteint, on va dire, un plateau. Alors, il restera à voir si ça se confirme en 2025, mais c'est la première fois que ça baisse depuis de nombreuses années. L'opération coup de poing dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre question, effectivement, elle était impressionnante. Elle a mobilisé plus de 100 policiers. Elle a permis l'interpellation et le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue qui sévissait dans le centre-ville et sur lequel nous étions très attentifs depuis plusieurs semaines. Il se trouve que ce réseau pratiquait aussi une forme de racket auprès de certains restaurateurs du centre-ville. Et c'est ça qui a beaucoup choqué parce qu'effectivement, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas à Digne. Donc, grâce au travail des enquêteurs, grâce au travail des policiers, des forces spécialisées, on a pu non seulement interpeller les auteurs de ce réseau et de ce trafic, mais les suites judiciaires ont été particulièrement lourdes et ça a conduit à un certain nombre d'incarcérations. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. Digne n'est pas une ville peu sûre, c'est une ville où la délinquance, comme d'ailleurs dans tout le département des Alpes-de-Haute-Provence, est contenue. On a peu de faits.
Partout, y compris à Manosque, la délinquance est contenue.
Absolument. Manosque est aussi une ville sûre, sur laquelle, bien sûr, on a déploré des faits de délinquance, mais rien de comparable avec ce qu'on constate dans d'autres départements. Et donc, on le doit à une très grande vigilance des forces de sécurité, à une grande activité judiciaire. On doit aussi à la contribution des élus locaux, grâce notamment à l'action des polices municipales et à des projets qu'on porte ensemble qui visent à renforcer la vidéoprotection en particulier.
Mmh. Justement, alors vous disiez qu'il y a des chiffres en effet qui sont en diminution, notamment les violences intrafamiliales. J'aimerais quand même revenir sur d'autres chiffres, les stupéfiants, qui restent toutefois un fléau contre lequel les forces de l'ordre sont amplement mobilisées. Malgré cet élan, 1152 au total, infractions pour usage, vente ou trafic en 2024. Ce sont donc 17% d'infractions à la législation en plus. C'était déjà 23% en plus en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stupéfiants sont entrés aujourd'hui dans le quotidien des Français et plus largement des bas alpins, d'autant plus que la proximité avec Aix-Marseille pourrait faciliter les trafics?
Je crois que c'est un phénomène effectivement qui concerne tous les territoires et on a une forme de banalisation de la consommation de produits stupéfiants, le cannabis.
17 kilos de cannabis saisis l'an dernier.
Plus préoccupant encore la cocaïne, qui est finalement de plus en plus présente lorsqu'on fait des interpellations et des contrôles. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité en 2024 faire de la lutte contre les trafics de stupéfiants une priorité, avec deux axes. Un premier axe qui est de travailler sur les réseaux, et on a donc démantelé 7 réseau, ce qui est historique. On n'a jamais autant agi sur les trafics de stupes dans les Alpes de Haute-Provence. Et avec une multiplication par 7 des avoirs criminels qui ont été recouvrés.
C'est-à-dire avoirs criminels?
C'est-à-dire, on a eu des saisies en numéraire, plus de 240 000 euros. On a saisi des armes, on a saisi évidemment du produit. Tout ça, c'est un coup d'arrêt donné à des équipes qui sévissaient à Digne, à Manosque, et y compris en zone rurale. Pour vous donner un exemple, on a fait en septembre dernier une opération qui a mobilisé plus de 130 gendarmes dans le secteur de Fort-Calquier, Manosque, qui a conduit à des interpellations, à des incarcérations. Et c'est tout un réseau qui a pu être démantelé. Alors, loin de moi l'idée qu'on a mis fin au trafic de drogue dans le 04, soyons lucides. Mais en tout cas, la lutte acharnée contre ces réseaux a donné des résultats historiques dans le département et on va continuer évidemment en 2025. L'autre axe, c'est de travailler sur les consommateurs. Parce que tant qu'il y aura des consommateurs, eh bien, il y aura évidemment des vendeurs et des trafics. Donc, les forces de gendarmerie, de police ont multiplié les contrôles et en particulier au volant. Parce que quand on consomme des stupes au volant, ben, on met en jeu sa sécurité, mais aussi celle des autres. C'est la raison pour laquelle on a multiplié ce qu'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles et les retraits de permis. J'ai été amené à retirer plus de 1000 permis l'an dernier, et une grande majorité d'entre eux étaient liés à de la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant.
En parlant de consommation d'alcool et de stupéfiants au volant, après l'accident d'un car scolaire jeudi dernier à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire, où une lycéenne de 15 ans est décédée, le chauffeur a été contrôlé positif aux stupéfiants. Et ce mardi, le préfet Haut-Alpin a décidé d'amplifier les contrôles auprès des conducteurs de transport public. C'est une action que vous allez mener aussi dans les Alpes d'Haute-Provence.
Elle a commencé et nous avons effectivement, depuis lundi, entamé une vague de contrôles très fréquents, approfondis sur les conducteurs de cars scolaires, de manière à vérifier que les enfants sont en pleine sécurité lorsqu'ils montent dans un bus scolaire. Écoutez, nous n'avons pas relevé à ce stade d'infraction. Mais effectivement, nous avons intensifié ces contrôles. Je précise qu'ils ont lieu toute l'année, mais qu'évidemment, compte tenu de l'actualité, on a redoublé de vigilance ces derniers jours et encore pour plusieurs jours.
En parlant de sécurité routière, elle fait partie des bons signaux de ce bilan, avec 21% de morts en moins sur les routes. Par contre, 8% de blessés en plus. L'Observatoire national de la sécurité routière a publié lui aussi son bilan pour 2024 en France. Et il s'inquiétait et émettait trois préconisations. Renforcer l'éducation routière dans les programmes scolaires, lutter davantage contre l'alcool au volant et il proposait aussi de réduire la vitesse pour protéger les usagers vulnérables. Sauf qu'en 2023, la vitesse, on se souvient, ce n'est pas de votre fait, mais la vitesse était rétablie à 90 km/h sur plusieurs axes du département.
Alors, d'abord, la loi a permis aux conseils départementaux de pouvoir relever sur un certain nombre d'axes la vitesse et c'est ce que le département des Alpes-de-Provence a choisi de faire après une concertation importante et en réduisant d'ailleurs très fortement le relèvement des vitesses après concertation, notamment avec les services de l'État. Il n'en demeure pas moins que sur les routes du département, si on prend les chiffres de la moyenne des années 2010-2017, hein, avant le Covid, on était à un total de 22 tués et cette année, on était à 11 tués. On a donc diminué de 50%, de moitié, l'accidentalité et les tués sur les routes du département. Après, les chiffres sur les blessés hospitalisés, qu'on suit aussi avec attention, c'est moins 23% entre ces deux périodes. Donc on voit que à la fois la prévention routière paye, et on a de très nombreuses actions, on a comptabilisé plus de 20 000 personnes qui ont été touchées par une action de prévention routière. On a des équipes en préfecture qui font ce type d'action, notamment sur les deux roues motorisées, sur les seniors, dont on sait qu'ils sont plus vulnérables. Et puis la répression, parce que la peur du gendarme, ça conduit aussi à modifier son comportement au volant. Et j'évoquais tout à l'heure les suspensions de permis, les amendes forfaitaires délictuelles, il y a aussi les radars, vitesse, qui sont des moyens très efficaces et dont on voit le résultat dans les bons chiffres en termes d'accidentalité routière.
Il y aura plus de radars d'ailleurs sur les routes du département ?
Il n'y aura pas forcément plus de radars, il y a une adaptation permanente de la réponse. On parle de radars embarqués, on parle de radars de plus en plus performants. L'objectif n'est pas d'augmenter significativement le nombre de radars, l'objectif est de faire en sorte que chacun prenne conscience que lorsqu'on prend sa voiture, lorsqu'on prend son véhicule, on met en jeu sa sécurité, mais aussi celle des autres.
Donc adaptation, mais pas plus de radars. 2024, 44 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés par la gendarmerie au col de l'Arche. Deux passeurs également interpellés. Quand le Premier ministre François Bayrou parle d'une submersion migratoire, Là, on parle aussi plutôt d'un sentiment plus qu'une réalité chiffrée.
Alors, il n'y a pas de sentiment de submersion migratoire dans le 04, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il est vrai que nous avons un point de passage transfrontalier, qui est le col de l'Arche, qui a 2000 mètres d'altitude. Et ce qu'on a constaté en 2024, c'est qu'il y avait moins de passages d'étrangers en situation irrégulière au col de l'Arche, puisqu'on a interpellé 78 personnes contre 235 en 2023. Donc on a une forte diminution, mais qui est directement liée à la diminution des entrées d'étrangers en situation irrégulière dans l'espace Schengen. Donc cette situation se retrouve sur l'ensemble des points de passage entre la France et, et l'Italie. Ce qu'il y a de certain, c'est que aujourd'hui, nous avons une action particulièrement résolue sur les étrangers en situation irrégulière et particulièrement sur les étrangers qui causent des troubles à l'ordre public. Et il est clair que lorsqu'on est en situation irrégulière, on a vocation à quitter le territoire français, mais a fortiori, lorsqu'on se rend coupable d'atteinte aux biens, aux personnes, etc. Et donc, on a une vigilance particulière sur les étrangers en situation irrégulière qui commettent des troubles.
Mais vous savez qu'on entend beaucoup cet acronyme OQTF, obligation de quitter le territoire français, et toujours cette phrase qui vient, oui, mais c'est pas parce qu'on a une OQTF qu'on est forcément reconduit à la frontière.
C'est vrai, mais on est dans un état de droit, et une personne en situation irrégulière qui se voit délivrer par le préfet une obligation de quitter le territoire français a des voies de recours. Et la justice examine les conditions dans lesquelles cette OQTF a été prise et peut se prononcer pour ou contre le respect du droit dans le cadre de chaque situation individuelle. Donc ça prend du temps, et c'est ce qui explique d'ailleurs un certain nombre d'échecs à l'éloignement. Et une deuxième raison, c'est que lorsqu'on renvoie un étranger dans son pays d'origine, il faut que les autorités d'accueil délivrent un laissez-passer consulaire. Et on le sait, avec un certain nombre de pays, c'est difficile d'obtenir ce laissez-passer consulaire. Donc là encore, ça peut expliquer un certain nombre d'échecs à l'éloignement. Donc, il n'en demeure pas moins que quelqu'un qui est sous OQTF est dans une situation donc, d'illégalité, il n'a pas le droit aux aides sociales, il n'a pas le droit de travailler, et que donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'inciter au retour, et nous avons d'ailleurs un certain nombre de départs volontaires qui sont accompagnés pour que la personne, comme on l'y invite, puisse retourner dans son pays d'origine.
Le loup dans les Alpes de Haute-Provence, l'Europe a voté pour déclasser le loup des espèces strictement protégées pour le passer à simplement protégé. Ça veut dire quoi sur le terrain et pour le préfet que vous êtes?
Alors, pour le moment, on a effectivement une ouverture qui était plutôt une bonne surprise pour les Alpes de Haute-Provence, c'est de dégrader le statut du loup d'espèce strictement protégée à protégée. Ça, c'est un processus qui est engagé, mais qui n'est pas encore complètement achevé, puisqu'il y a la Convention de Berne, qui est une convention internationale, et puis après, il y a une directive
de l'habitat
qu'il va falloir effectivement modifier. Donc, on en est, on va dire, au milieu du guet par rapport à ce déclassement. Et après, eh bien, effectivement, on pourra plus facilement prélever un certain nombre de loups. Mais il y aura toujours des quotas. Donc, je ne pense pas que ça va modifier de manière considérable la gestion du loup aujourd'hui. Ce qu'il y a de clair, c'est que le loup aujourd'hui n'est plus une espèce menacée dans nos Alpes du Sud. On a des meutes qui prospèrent, qui prolifèrent. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt de trouver un équilibre entre cette présence permanente du loup et le maintien et le développement du pastoralisme. Tant qu'on n'aura pas trouvé le point d'équilibre entre ces deux objectifs, eh bien, on aura des grosses difficultés. Depuis le début de l'année, on comptabilise déjà trois grosses attaques dans les Alpes de Haute-Provence.
Depuis 2025,
à plus de 10 brebis qui ont été prédatées ou tuées. La dernière fois, elles se sont retrouvées dans le canal EDF parce qu'elles ont été effarouchées par le loup. Et donc, on a déploré...
À Manosque.
À Manosque, absolument. Donc, si vous voulez...
Loup est à Manosque.
Alors, le loup est à Manosque, le loup est dans tout le département. Il n'y a pas un coin du département qui échappe à la présence du loup. C'est ce qui me permet de dire que le loup n'est pas une espèce menacée dans les Alpes de Haute-Provence. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut trouver ce point d'équilibre. Donc, on a des lieutenants de louveterie qui font un travail remarquable On a pu prélever 39 loups dans le département l'an dernier.
700 sorties de louvetiers l'an
dernier. 700 sorties de louvetiers. On n'a jamais autant eu de sorties de louvetiers. On les a équipés. Ils font un travail très important parce que lorsqu'un éleveur perd 10, 20, 30 bêtes ou qu'il subit dans la même semaine 3 attaques, il faut qu'on puisse répondre. Et il faut aussi qu'on dissuade le loup de s'en prendre aux moutons. La faune sauvage est abondante et la logique serait plutôt que le loup se nourrisse sur la faune sauvage et qu'il est chargé aussi de réguler.
Mais vous parlez aussi de point d'équilibre. Et comment vous trouvez un point d'équilibre dans ce débat entre les pour et entre les contre et puis entre ceux qui disent aujourd'hui, oui, en effet, il faut prélever du loup, mais pas n'importe comment, et notamment des chercheurs qui le disent. C'est-à-dire que abattez un loup alpha, attention, la meute se dispersera et il y aura beaucoup plus d'attaques.
C'est vrai.
C'est compliqué de trouver un point d'équilibre.
C'est compliqué, mais la nature est compliquée et on ne peut pas réguler la nature. Ce n'est pas une science exacte. Lorsque vous voyez un louvetier en action, il n'a pas forcément le choix de l'animal qu'il va pouvoir tirer. S'il y a une meute, évidemment, il va privilégier peut-être, s'il le peut, un animal plutôt qu'un autre. Mais il faut se dire qu'il faut une bonne dizaine de sorties de louvetier le soir, la nuit, pour pouvoir prélever éventuellement un loup.
Et pourquoi on n'armerait pas les éleveurs ?
Alors, c'est un débat. Les éleveurs ne demandent pas forcément à être armés. Et s'ils sont chasseurs, ils peuvent avoir, dès lors qu'ils ont un tir de défense, la possibilité de tirer du loup, mais peu l'exercent. Ils s'en remettent à des chasseurs spécialisés que sont les louvetiers. Et je crois que ça ne pose pas vraiment de débat. De même que la présence du loup aujourd'hui n'est plus discutée dans les Alpes de Haute-Provence. Les éleveurs conviennent dans leur immense majorité que le loup a vocation à rester dans les campagnes, mais encore, tout est question de proportion. S'il y a trop de loups, eh bien, c'est toute une activité pastorale qui est menacée.
Mmh. Comment, quand on est préfet, comment on gère justement des gouvernements successifs qui vivent avec une épée de Damoclès, avec un budget qui devrait être voté ce mercredi, mais en tout cas avec toujours des points d'interrogation. Depuis plusieurs mois, depuis les dernières législatives anticipées, c'est quand même compliqué.
Alors, quand on est préfet, on est au service de l'État et du gouvernement, et j'ai envie de dire que le service de l'État commande. Donc, on n'a pas d'état d'âme par rapport à l'activité nationale, et on s'accommode des situations, et notamment des situations qu'on connaît depuis plusieurs mois, qui font qu'effectivement, il y a des difficultés pour voter le budget, il y a un climat d'incertitude. Mais je dirais qu'on s'adapte, et ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas entamé ni l'action des services de l'État sur le plan départemental, ni l'accompagnement en particulier des élus. Donc, il y a ce qui se passe à Paris, qu'on surveille avec attention et sur lequel, évidemment, on essaye d'amortir un certain nombre d'inquiétudes.
C'est compliqué, là. Les collectivités locales sont très inquiètes.
Je pense que le budget va être voté cette semaine. On va donc avoir des premières délégations de crédit, notamment pour accompagner les projets locaux. Donc, je pense que pour les élus, ils ne subiront pas de trous dans l'accompagnement. Après, la question se posera de quelles dotations, est-ce qu'elles sont en diminution forte ou pas. On attend d'avoir le détail du budget pour le savoir.
Et les arbitrages, parce qu'il y a ce fameux déficit public qu'il faut combler. On parlait au départ d'une participation des collectivités à hauteur de 5 milliards, désormais 2 milliards 200 millions d'euros. Il y a quand même des collectivités qui s'inquiètent, qui votent des budgets justement pour s'adapter. Vous leur dites quoi à ces collectivités ? Vous leur dites que des financements, il y en a, des leviers, il y en a, notamment dans certains programmes, qu'il faut être ingénieux, qu'il y a des ressources. Je me souviens avoir, être allé du côté de Vologne auprès de Sandrine Cossera, qui disait « Mais je sais qu'il y a des budgets, je sais qu'il y a des leviers, je sais qu'il y a des subventions, le tout, c'est d'avoir un sacré cahier des charges, mais il y en a. »
On vit un paradoxe, c'est que tout le monde a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'argent, et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2024, on n'a jamais autant investi dans des projets locaux.
Combien ?
65 millions d'euros en 2024, c'est un montant inédit. On n'a jamais autant injecté de subventions dans les projets locaux. Alors, il y a un phénomène conjoncturel, c'est que dans ces 65 millions, il y a 14 millions qui sont liés à l'indemnisation des intempéries de décembre 2023. Donc, mais même si on enlève ces 14 millions, on est à des chiffres considérables qu'on n'a jamais connus dans le département. Donc, on anticipe toujours le pire, mais la réalité, si on se retourne sur la réalité de 2024, c'est qu'on n'a jamais autant investi dans les projets locaux. Et donc, les élus ont été accompagnés parce que le gouvernement a créé des nouveaux outils, notamment le fonds vert, Parce que, disons-le, on est aussi allé chercher des crédits sur des agences nationales. L'Agence nationale de l'habitat est très présente dans les Alpes-de-Haute-Provence et on s'en félicite puisqu'elle permet à des belles opérations de sortir. J'inaugurais il y a peu de temps à Man un projet de rénovation d'un bâtiment en plein centre-ville dans lequel l'État est de loin le premier financeur. Donc, je dirais qu'il y a effectivement une question d'inventivité qu'on a avec les élus pour aller chercher les crédits là où ils sont. Mmh. On a aussi des dotations qui sont importantes. Puis moi, je ne voudrais pas résumer l'accompagnement de l'État à des subventions. L'accompagnement de l'État, c'est aussi l'ingénierie. C'est quoi l'ingénierie? C'est la mobilisation de compétences techniques, celles des agents de l'État, celles de bureaux d'études qu'on peut financer, celles d'agents qu'on finance dans les collectivités pour accompagner les maires. Et ça, c'est très important parce que dans nos départements ruraux, souvent, le facteur limitant, c'est le temps, c'est la capacité technique de monter les dossiers, c'est complexe.
La complexité, oui.
Voilà, et donc pour ça, on a pris des initiatives pour dire aux élus, vous n'êtes pas tout seul, on va vous donner de l'argent, mais on ne va pas vous donner que de l'argent. On va aussi vous aider à monter les dossiers, à faire en sorte qu'ils soient techniquement irréprochables et pour qu'une opération puisse sortir en 2 ans plutôt qu'en 4.
Marc Chapuis, 38 médecins internes ont été accueillis au sein des différents équipements de santé du GHT, le groupement hospitalier territoire des Alpes-de-Haute-Provence, en 2024. Ouf, l'avenir se veut rassurant, on sait que c'est très compliqué dans les Alpes-de-Haute-Provence en ce moment, entre Manosque, Digne-les-Bains, mais l'année 2025, ça sera mieux?
Alors, on va vers du mieux en matière de santé, et ça n'est pas la méthode Coué que de le dire. On a des signaux qui sont positifs. Le signal le plus encourageant, c'est que à la rentrée 2026, vont sortir de l'internat ce qu'on appelle les docteurs juniors, c'est-à-dire des étudiants en fin d'internat de médecine et qui vont avoir pour terrain de stage notamment des départements ruraux. On estime qu'on devrait accueillir une quarantaine de jeunes médecins qui ont fait tout leur cursus universitaire et qui, aux côtés de médecins qui seront leurs maîtres de stage, pourront pratiquer la médecine, leur première année de médecine, et vont pouvoir donc accompagner et corriger cette anomalie qui fait que dans les Alpes-de-Haute-Provence, comme malheureusement dans beaucoup de territoires en France, on n'est pas sûr d'avoir un médecin traitant.
Mais encore faut-il qu'il reste après.
Oui, mais l'expérience prouve que lorsque vous découvrez un département, que vous y avez fait votre premier stage, une part importante vont choisir d'y rester, et puis l'année suivante, il y en aura 40 autres. Donc, si vous voulez, je pense qu'on a un horizon qui est plutôt positif sur nos départements ruraux. Après, sur les urgences, ça a beaucoup focalisé les inquiétudes, et on le comprend, des habitants, surtout quand on leur parle de fermeture des urgences. Moi, je dis toujours, les urgences, elles ne sont pas fermées. Aujourd'hui, dans les Alpes-de-Haute-Provence, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, vous avez 3 services d'urgence qui fonctionnent à Digne, Manosque et Sisteron. Ça veut dire qu'il y a au moins un médecin urgentiste. Quand on parle à tort de fermeture des urgences, on parle de l'accès libre aux urgences. C'est-à-dire qu'une personne se présente à 2 heures du matin et demande à pouvoir être examinée par un médecin. C'est vrai que les urgences, depuis plusieurs années, sont passées du traitement des urgences vitales au traitement de tous les besoins, et notamment dans des départements où il n'y a pas de médecin traitant, pas suffisamment. Donc, quand vous allez aux urgences, vous avez parfois une urgence vitale, et évidemment, il faut la traiter en priorité, immédiatement, et c'est à ça que servent d'abord les services d'urgence, et puis vous avez aussi des gens qui viennent pour des choses qui peuvent, par exemple, attendre le lendemain, ou sur lesquelles il y a une inquiétude, mais il n'y a pas forcément besoin de mobiliser un médecin urgentiste. Donc, première chose, il faut appeler le 15 lorsque on se sent en détresse, et c'est le 15 qui vous dit venez aux urgences tout de suite ou on vous envoie un SMUR, ou alors ça peut attendre demain. Et depuis juillet dernier, les urgences proposent même des rendez-vous avec des créneaux qui ont été convenus avec les médecins de ville pour vous dire écoutez, présentez-vous demain ou après-demain auprès du docteur X dans votre ville. Donc si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses de faites. C'est vrai que ça a focalisé beaucoup d'inquiétudes, et notamment avec la situation des urgences de Manosque. J'ai réuni à plusieurs reprises tous les acteurs, les maires, et puis l'ARS, dont c'est la compétence. Et grâce à la mobilisation de l'Agence régionale de santé, l'ancien ministre François Braun est venu dans le département à trois reprises.
Il a été missionné, oui.
Il a été missionné et on va clairement vers du mieux pour rassurer les bas alpins et aussi garantir un fonctionnement des urgences. Mais j'insiste sur le fait que abusivement, on dit que les urgences sont fermées, alors que H24, il y a trois services d'urgence, il y a même un hélicoptère qui peut décoller à tout moment pour venir en aide aux personnes qui ont réellement une urgence vitale.
Vous l'avez dit il y a quelques instants, lorsque vous découvrez un département, souvent vous y restez, sauf qu'on sait que la durée moyenne du mandat d'un préfet, c'est 3 ans. Vous êtes arrivé, je le disais, au tout début, en août 2022, les 3 ans, ça y est, on y arrive.
Alors, vous avez raison, le compteur tourne. Maintenant, si votre question est de savoir ce qui va se passer, je n'en ai aucune idée. Je suis à la disposition du gouvernement et vous savez, dans ce métier-là, on ne s'appartient pas.
Merci beaucoup Marc Chapuis d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin, préfet des Alpes-de-Haute-Provence.